Léa Salamé, votre invité ce matin est l'ancien secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Il publie Un ministre ne devrait pas dire ça aux éditions Robert Laffont.
Bonjour Christian Eckert.
Bonjour Léa Salamé.
Un ministre ne devrait pas dire quoi ?
Ben écoutez, un ministre, quand il est en exercice, il a un peu de mal à s'exprimer parce que tout est scruté, tout est épié, surveillé. Et quand il est libéré, surtout un an après, de ce devoir de réserve, de solidarité parfois, il peut effectivement donner sa version du quinquennat qu'il a vécu.
Oui, le moins qu'on puisse dire quand on lit votre livre, c'est que vous prenez cette liberté-là. Hein, il n'y a aucun devoir de réserve ou presque. Avant de parler de votre livre et du portrait au vitriol que vous faites de votre ancien voisin de bureau devenu président de la République, Emmanuel Macron, deux petites questions d'actualité à l'ancien secrétaire d'État au budget que vous êtes. Bruno Le Maire envisage de réduire les aides sociales à l'emploi. Si le chômage baisse, est-ce que ce n'est pas cohérent ?
Je trouve que c'est un peu incohérent parce que lorsque le chômage baisse, on peut penser que ceux qui restent sur la touche ont toujours besoin, peut-être même plus qu'avant, de la solidarité des autres.
Mais baisser les aides à l'emploi, tout ce qui...
Et les aides à l'emploi, elles ont déjà été baissées. Je pense notamment à la prime à l'embauche qui avait été mise en place par le gouvernement Hollande. Elle a déjà disparu et la croissance revient aujourd'hui pour des tas de raisons. Et les emplois sont créés en France pour des tas de raisons qui ne sont pas liées seulement à la politique française.
Mais comme Bruno Le Maire dit que le volet social constitue quasiment 50% de la dépense publique et s'il faut baisser la dépense publique, il faut baisser le volet social. Est-ce que ce n'est pas cohérent là ?
Mais il a raison de dire que c'est 50% de la dépense publique. Mais c'est aussi l'originalité, j'allais dire, un dispositif que la plupart des pays du monde nous envient en matière de santé, en matière de retraite. Et après, il y a des éléments techniques sur la comptabilisation de ces dépenses qui faussent parfois un peu les comparaisons internationales, mais c'est trop long et trop technique à expliquer. Donc l'originalité de la France, et c'est ce qui fait l'attachement des Français à ce système de solidarité, c'est bien cette mutualisation des risques concernant par exemple le chômage ou la maladie, ou ce statut des retraites qui sont faits sous forme de mutualisation, encore une fois.
Et puis à cette note de Bercy révélée par Le Monde ce week-end, qui prévoit de baisser les aides sociales, notamment les APL pour les étudiants et certaines aides aux personnes âgées dans le budget 2019, ce ne sont que des pistes pour l'instant, ce n'est juste qu'un document de travail, dit Gérald Darmanin. Ce genre de document, l'administration de Bercy, vous qui avez été pendant quelques années à Bercy, en produit beaucoup, c'est pas pour ça que les ministres les suivent, non ?
Vous vous souvenez peut-être que j'avais qualifié ce genre de liste musée des horreurs. Parce qu'effectivement, chaque ministre a toujours ce type de proposition. Certaines sont législatives, certaines sont réglementaires. Je crois que le devoir de ministres et de membres du gouvernement, c'est d'assumer une politique. Ce n'est pas de se retrancher derrière des administrations. Et donc, à Bercy, on sait aussi conserver la discrétion et le secret du travail interne au gouvernement. Et ce type de fuite, c'est parfois plus des ballons d'essai que des fuites non maîtrisées.
Alors dites-moi, vous consacrez un chapitre à Gérald Darmanin dans votre livre « Un ministre ne devrait pas dire ça », ça c'est le titre du livre. Le chapitre est titré « Le melon de Darmanin » sous titre « De l'opportunisme en politique ». Vous êtes jaloux ou quoi ?
Pas du tout, mais la passation de pouvoir, ça vous a pas échappé, telle qu'elle a eu lieu, a été quelque chose qui a révélé aussi la personne. C'est quand un ministre qui arrive vous dit ou vous fait dire, parce qu'il ne vous le dit pas directement, qu'il refuse de passer le pouvoir à un simple secrétaire d'État, qui a quand même assumé son mandat pendant 3 ans, ça révèle une personnalité.
Vous dites avoir ressenti une immense rage le soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Pourquoi immense rage ?
Mais parce que quelque part, il y a eu une démarche masquée d'abord et de plus en plus affichée, qui a parfois utilisé aussi la position qu'il avait pu avoir, aussi bien le carnet d'adresses qu'il s'était constitué à l'Élysée, mais aussi son passage au ministère de l'économie, où je suis pas sûr, ou même je vais aller plus loin, où je pense qu'il a passé une partie de son temps avec ses équipes à préparer sa candidature avec une position très ambiguë par rapport à celui qui l'avait fait, c'est-à-dire par rapport à François Hollande.
Voilà, c'est ce que vous écrivez dans le livre, vous lui reprochez d'avoir monté à Bercy quand il était ministre une opération commando pour gagner l'Élysée et d'avoir utilisé les moyens de l'État, l'appartement qui était à sa disposition pour organiser des dîners et préparer l'Élysée.
Certains ont parlé de casse du siècle, je n'irai pas jusque-là, je n'aime pas trop les formules, mais il est vrai que quand on observait les allées-venues, n'est pas toujours des gens liés à la politique économique du pays qui étaient reçus à Bercy. Et je pense qu'il y avait là, effectivement, de la part du couple Macron, la préparation d'une opération, commando ou pas. En tout cas, elle a été révélée par la suite.
C'est pas illégal, c'est peut-être moralement condamnable, mais c'est pas illégal.
On n'est pas dans des proportions qui mériteraient autre chose qu'un commentaire sur l'éthique. C'est l'éthique qui est mise en cause, c'est pas forcément la légalité de cette démarche.
Vous dites que c'est le président des riches qui sacrifie les bijoux de l'État au profit de la finance, mais Emmanuel Macron ne pratique-t-il pas, au fond, en l'accentuant, la politique de l'offre de François Hollande avec son CICE, avec le pacte de responsabilité, avec la loi El Khomri? Est-ce que juste il ne va pas plus loin que ce que vous avez déjà fait?
Certes, il va plus loin, mais il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter, surtout lorsque l'économie redémarre. Je vous rappelle que l'INSEE aujourd'hui prévoit une croissance dans notre pays de 2,3%, ce qui n'était pas connu depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça veut dire que cette politique, effectivement, elle a porté ses fruits, peut-être tardivement, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle porte ses fruits.
Ça, vous nous expliquez que c'est grâce à François Hollande si on a 2,3%
de croissance. En tout cas, en partie, on ne peut pas quand même dire que c'est que depuis le mois de juin que le nouveau gouvernement a mis en place des mesures qui portent. Mais si j'ai décidé de parler, c'est pour deux raisons. La première, c'est d'abord que j'ai trouvé que les propos du président Macron et de ses équipes étaient fondamentalement injustes par rapport à ses prédécesseurs.
C'est-à-dire
quand, par exemple, il dit « la France est de retour », je ne peux pas comprendre. La France n'est jamais partie de la scène internationale, bien au contraire. Première raison, donc, les propos, souvent, on a été traité d'amateur, on a été traité d'insincère. Et je pense que tout ça a été plus qu'excessif. La deuxième raison, c'est que les actes, parce que c'est ça qui compte pour nos concitoyens, les actes notamment budgétaires et fiscaux, ont montré une politique, effectivement, en direction des riches. Et je pense que c'est une conviction du président Macron. Certains me disent, est-ce que c'est un retour d'ascenseur à ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir? Je pense que c'est une conviction chez lui et je pense qu'il se trompe. Je pense qu'effectivement, il a vissé au corps cette idée du premier de cordée, cette idée que seule l'excellence peut faire progresser l'économie.
Vous êtes sûr qu'il se trompe? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes sûr que ça ne marchera pas? Son pari libéral, si on donne aux riches, si on donne aux actifs, ça finira par profiter à tous. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne marchera pas?
Mais je ne suis pas plus sûr que ça ne marchera pas que lui s'affiche sûr que ça va marcher. Moi, je suis toujours humble par rapport aux prévisions, par rapport à l'économie. J'étais prof de mathématiques, ça ne vous a pas échappé. Les mathématiques, c'est assez cartésien. L'économie, c'est quelque chose de bien plus souple, d'un peu plus flou. Et on voit bien, au travers des prévisions des uns et des autres, qu'elles sont révisées très régulièrement et souvent dans des proportions considérables.
On va vous accuser de surfer sur la mode des anciens collègues d'Emmanuel Macron, François Hollande en tête, et d'être gris, d'être amer, de prendre votre revanche avec ce livre.
Vous savez, avoir perdu les élections, et ça m'est arrivé, sèchement d'ailleurs.
Vous avez sèchement perdu les législatives.
J'ai sèchement perdu les législatives, ça ne condamne pas au silence. Il n'y a aucune raison qu'après un an d'ailleurs, et pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est parce que depuis il y a eu des actes, et donc ça ne condamne pas au silence, ça donne peut-être même le devoir de s'exprimer pour donner une position d'opposant. Oui, mais c'est néanmoins une position qui peut et qui doit être respectée, comme j'ai respecté le choix des électrices et des électeurs.
Et c'est le cas dans ce livre-là, je dis avec ce qui est vraiment frappant, c'est la liberté de ton dans ce livre. Et puis vous consacrez aussi des chapitres entiers, et là on voit le comptable en vous, aux taxes, la taxe panda, la taxe tampon. Ils liront, les lecteurs liront votre livre, c'est assez amusant. Pour terminer, je voudrais vous faire réagir à une phrase de Malek Bouti ce week-end. Ce qui a tué la gauche, ce n'est pas Macron, c'est ce qu'elle est devenue. Elle est devenue méchante, aigrie, elle est devenue juste la volonté de combattre et de détruire, et elle a perdu ce qu'elle avait de plus beau, l'espérance.
Vous savez, je crois que la gauche, elle a appris aussi, comme d'autres, à l'exercice du pouvoir, l'humilité. Et parfois, quand j'entends certains propos où on laisse espérer, miroiter des choses que l'on sait parfaitement irréalistes, je crois que la responsabilité d'un grand parti politique, c'est de ne promettre que ce qu'il sait pouvoir tenir.
Un ministre ne devrait pas dire ça. Chez Robert Laffont, merci Christian Eckert. Belle journée à vous.
Merci.